ces prisons secrètes, puisqu'à partir du moment où les US ont soustrait des individus aux droits, eh bien, il devient quasi impossible pour eux de les libérer après. Quand vous avez soumis quelqu'un 83 fois au waterboarding, une torture qui simule la noyade, dur de le juger après. Certains avocats des États-Unis essayent même de faire croire qu'il ne s'agit pas de torture, car la définition officielle dit que la torture a pour but de faire souffrir quelqu'un, alors que les Américains veulent simplement obtenir des informations. Vous voyez la nuance ? C'est un peu la même nuance qui a conduit les Américains à dire qu'ils n'ont pas de prisonniers de guerre.
Juste après le 11 septembre, donc quand je disais que les Américains donc déclarent une guerre au terrorisme mais ne respectent pas le droit de la guerre, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que un des principes du droit international humanitaire, donc du droit de la guerre, c'est que les gens que l'on capture dans le cadre d'un conflit armé et qu'on suppose donc être du camp opposé, ces gens-là normalement bénéficient du statut de prisonnier de guerre qui est garanti par les conventions de Genève. Mais l'administration américaine, donc pour faciliter la détention et la torture de ces individus, elle a décidé que les gens qu'elle capturerait dans la guerre contre le terrorisme ne seraient pas des prisonniers de guerre, que ce seraient des combattants illégaux, pour éviter que les garanties qui s'appliquent aux prisonniers de guerre, à ceux qui bénéficient du statut de prisonniers de guerre, ne s'appliquent aux suspects de terrorisme qu'elle arrêterait.
Venons-en maintenant avec Malika Danois aux avions, aux vols de restitution. C'est, selon elle, la clé de voûte de cet archipel pénitentiaire mondial qu'est le programme de restitution extraordinaire.
Qu'est-ce que la restitution, ça désigne ? Ça désigne littéralement en fait une flotte d'avions dont la fonction était de transporter en fait les gens qui avaient été kidnappés. Pour rallier tous ces centres de détention donc qui sont disséminés à l'échelle planétaire, il y a eu la création d'une flotte aérienne dont la fonction était de transporter les prisonniers dans les prisons. Et ce qui donne du coup vraiment le tableau d'un vaste archipel pénitentiaire, c'est le sous-titre du livre, un archipel pénitentiaire en fait qui est rallié par une multitude de vols de restitution extraordinaires et qui organise en fait à l'échelle de la planète pour trimballer de prison en prison ces individus. Parce que ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que admettons un individu est kidnappé au Pakistan et il est envoyé dans une prison secrète en Roumanie, prison secrète de la CIA. Bien souvent, en fait, il va subir une succession de restitutions, c'est-à-dire une succession d'emprisonnement et donc de restitutions. Par exemple, je vais reprendre le cas de Khaled Sheikh Mohamed, donc qui a été arrêté au Pakistan en 2002. Et qui a connu pas moins de, je crois, 7 ou 9 restitutions, c'est-à-dire qu'il a été envoyé en Thaïlande, ensuite en Pologne, ensuite en Roumanie, ensuite au Maroc, ensuite en Afghanistan, et puis pour enfin finir à Guantanamo, où il a été restitué le 6 septembre 2006. Donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que bien souvent, en fait, les gens qui, pas tous, hein, je précise pas tous, mais très souvent, un bon nombre de prisonniers de Guantanamo, en fait, ont subi une succession d'emprisonnements avant, en amont, au sein de cette espèce d'archipel pénitentiaire, voilà.
Et ouais, la CIA avait même créé sa compagnie aérienne pour restituer tranquille. Air America. Ils ont aussi utilisé des tas de compagnies privées pour faire voyager discrètement leurs prisonniers. D'ailleurs, il y a un passage marrant du livre de Malika Danois où elle raconte comment la CIA se fait griller par des amateurs d'avions qui trouvent suspects certains vols dans un petit aéroport. Mais là encore, on cible, à juste titre, la CIA qui magouille, mais sans allier, pas de programme de restitution extraordinaire.
En effet, le programme de restitution n'aurait jamais pu exister sans l'appui et la coopération, la collaboration d'un certain nombre d'États Il ne s'agit pas de dire qu'à l'intérieur des États, forcément, absolument tous les responsables politiques étaient au courant de ce qui se tramait, mais en tout cas, que ça soit par exemple la CIA qui s'est appuyée sur des partenaires au niveau de leurs homologues du renseignement, par exemple en Roumanie, en Pologne, ou bien voilà l'armée américaine qui s'appuie sur la base qu'elle a par exemple à Diego Garcia, dans l'île de Diego Garcia, dans l'océan Indien. Enfin, tout ce système n'aurait pu exister sans la complicité active d'un certain nombre d'acteurs étatiques et d'alliés des Américains, dans le sens où déjà la CIA n'aurait pas pu construire de manière invisible en fait des prisons secrètes sur le sol d'États tiers. Par exemple, les prisons en Pologne, en Roumanie, en Lituanie, elles ont été construites en collaboration avec les services de renseignement locaux. Et donc ça, c'est pour la construction très concrète des sites. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les règles de transport aérien international, eh bien, un avion ne peut pas traverser la zone aérienne d'un autre État sans qu'en fait l'État en question sache ce qu'il y a dans l'avion. Et donc, en fait, les Américains ont bénéficié de complicité des pays qui ont laissé survoler leur territoire par des vols de restitution qui transportaient de manière illégale des prisonniers. Et ça, les complicités sont extrêmement nombreuses. La France, voilà, est coupable de ce genre de choses également. Et il y a aussi les complicités dans les escales, c'est-à-dire que les vols de restitution, les avions ne peuvent pas voler de manière illimitée. Et donc, ces vols de restitution faisaient escale dans certains endroits. En Europe, je pense par exemple aux Açores, etc. Et donc, qu'ils soient remplis de prisonniers ou pas, en tout cas, c'était des vols de restitution.
Et c'est pas seulement de la complicité pour les vols, il y a eu aussi de la complicité pour la torture, notamment dans le cadre des proxy detention dont Malika Danois parlait tout à l'heure et qui permettait à la CIA de sous-traiter détention et torture.
Les services de renseignement américains, c'était surtout la CIA qui avait ces liens-là et qui envoyait ces individus qu'elle avait kidnappés donc dans des États tiers pour qu'ils soient détenus et torturés. Et donc, en fait, ce qui se passait dans ces cas-là, c'est que les individus étaient envoyés au Maroc, en Ouzbékistan, en Libye. Et donc, ils étaient plus sous la responsabilité des Américains. Ils étaient sous la responsabilité des autorités locales qui avaient en charge leur détention et leur torture. Et le principe, en fait, vraiment à la base de cette pratique, c'est que c'était pratique pour les Américains et pour la CIA dans le sens où ça lui permettait de se dégager de toute responsabilité pénale dans ses activités illégales et ses activités de torture, puisqu'elle pouvait toujours dire que, ce n'était pas de son fait. Mais bien sûr, la collaboration était mutuelle dans le sens où bien souvent, en fait, les agents locaux recevaient les questions qu'ils devaient poser sous la torture aux suspects de terrorisme directement par les services de renseignement américains. Et bien sûr que les services de renseignement américains étaient maintenus au fait de ce qui se passait pour les détenus qu'elle avait envoyés dans ces états-là. En fait, ils vont maximiser les moyens de détention et d'extraction d'informations en utilisant leur propre réseau de centres de détention, bien en se servant des centres de détention militaires, et ils vont se servir aussi, s'appuyer sur leur complicité, enfin des complicités étrangères. Mais c'est que le système dans son ensemble, en fait, est fait pour contourner le droit, pour contourner l'état de droit. Et dans ce cadre-là, on va se servir de tous les moyens qui sont à notre disposition pour le faire. Sleeping in the seat next to me, like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go.
so pure, and it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me, to me, to me, to me, to me, to me. You're a part of the dawn, where the light comes from the dark. You're a part of the morning, and everything matters. And we are an atom and a star. You're a part of the movement, and everything matters to me, to me, to me, to me. I'm watching a storm turn into form in the clouds of the world, like a burst. It dances and it twirls on top of the world. It is good and it hurts. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a teacher, a simulated dream, a cure, a cure. Pleasure you feel is real. You're a part of the dawn, where the light comes from the dark. You're a part of the morning, and everything matters. And we are an atom and a star. You're a part of the movement, and everything matters to me, to me, to me, to me.
Petite blanche dans du poil sous les bras.
C'est toujours intéressant de comprendre comment un tel système a pu exister et se mettre en place aussi rapidement. Alors vous vous en doutez, c'est pas sorti de nulle part cette affaire. Le programme de restitution exceptionnel, né après le 11 septembre, s'est basé sur des pratiques répressives qui existaient déjà en grande partie.
D'une certaine manière, un système similaire a existé dans le cône sud de l'Amérique latine lorsqu'il y avait donc les dictatures militaires des années 60 et 70, surtout enfin, à partir des années 70. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de l'histoire dans cette partie-là du monde? C'est que les différents régimes militaires sud-américains se sont entendu pour développer un réseau de répression transcontinentale qui était irrigué par les différents liens qui existaient et qui unissaient les services de renseignement de tous ces États-là. Et donc, ce en quoi consistait ce système de répression, et bien c'était à peu près équivalent à ce qui s'est fait dans le cadre du programme de restitution, c'est-à-dire que dans le cadre de la lutte contre le communisme, dans les années donc 70, les opposants politiques étaient enlevés, étaient détenus dans des lieux extra-légaux et torturés pour obtenir des renseignements sur les réseaux communistes, les réseaux de dissidence de la région latino-américaine. Et ce système donc était un système de répression transcontinentale, c'est-à-dire que voilà, des gens qui étaient des supposés dissidents politiques argentins pouvaient être arrêtés au Chili et puis transférés dans un lieu de détention au Chili pour être torturés par des forces de sécurité chiliennes, uruguayennes, paraguayennes et argentines. Et donc, en fait, on a sensiblement un peu la même logique de fonctionnement. Et ce qui est intéressant au regard du programme de restitution, c'est que, eh bien, en fait, ce système de répression transcontinentale du communisme, il était largement appuyé par les États-Unis, en l'occurrence par la CIA et les services de renseignement américains. Et ils ont vraiment, non seulement financé, mais aussi vraiment aidé sur un plan sécuritaire, de formation, etc. Ils ont formé, en fait, les agents répressifs latino-américains dans le cadre de ce réseau de répression qu'on a appelé, qui a été appelé le plan Condor.
Avant les communistes, c'était les sorcières. Aujourd'hui, les islamistes. Il y a toujours un ennemi qui permettra à certains de s'extraire du droit au prétexte d'un soi-disant intérêt supérieur. Mais quels que soient les exemples que l'on prend, on a du mal à justifier ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Est-ce qu'il existe toujours ce programme de restitution extraordinaire ?
Du côté américain, le programme de restitution, en fait, il a pris fin en 2009 lorsque Barack Obama a été élu président. C'est-à-dire qu'il a signé un ensemble de décrets pour fermer les centres de détention, notamment de la CIA. Et donc, à ce moment-là, en fait, le dernier vol de restitution extraordinaire à destination de Guantanamo, depuis l'Afghanistan, il a eu lieu en 2008. C'est-à-dire que les vols de restitution se sont terminés en 2008. En 2009, le programme a été arrêté par Barack Obama. Donc aujourd'hui, en tout cas du côté américain, ce qui reste le dernier vestige en fait de ce réseau répressif-là, c'est Guantanamo. C'est Guantanamo avec donc voilà la quinzaine de détenus actuels qui sont en fait des gens donc voilà qui sont passés par différentes prisons de l'archipel pénitentiaire avant d'échouer à Guantanamo. Donc voilà, ça du côté américain, c'est ce qui reste du programme de restitution. Pour donner une idée de ce que c'est, en fait, Guantanamo, c'est 779 individus qui ont été emprisonnés au total. Plus des trois quarts, ils sont sortis, ont été libérés sans que jamais aucune charge judiciaire ne soit retenue contre eux. En 2006, il y a des études juridiques qui ont montré que seuls 8% des détenus de Guantanamo pouvaient être considérés comme des combattants d'Al-Qaïda, sachant que c'est pas parce qu'on est un combattant d'Al-Qaïda que forcément on a sa place en prison, dans le sens où il faut quand même avoir commis des actes répréhensibles pour justifier de se retrouver en prison. Et les individus donc, qui se sont retrouvés à Guantanamo, mais dans tous les autres centres de détention de l'archipel pénitentiaire, ont été arrêtés sur la base de suspicions aussi volatiles et aussi légères très souvent que, par exemple, le fait de porter une montre Casio, parce que l'administration américaine avait décrété que la marque Casio était la marque des terroristes, que dans une région comme le Moyen-Orient, le fait de porter une arme était considéré comme un signe de potentiellement faire partie d'un réseau terroriste, alors que la vente d'armes, enfin la circulation d'armes, notamment dans cette région du monde, est prolifique. Voilà, et sur la base aussi d'homonymie, c'est-à-dire que des gens qui portaient le même nom, prénom, que des terroristes qui étaient connus dans les bases de données des services de renseignement, en fait, ont pu être arrêtés, détenus, torturés, parce qu'ils portaient le même nom avant que, en fait, les agents se rendent compte qu'ils s'étaient trompés de personne. Voilà, donc ce sont ce genre de critères aussi futiles et aussi éloignés des standards, en fait, d'un processus judiciaire admissible que en fait les captures et les détentions ont eu lieu.
Depuis la fin officielle du programme de restitution extraordinaire du côté américain, Malika Danois n'a pas eu vent de nouvelles restitutions. Mais à la question qu'elle s'était posée pour sa thèse, à savoir est-ce que c'est possible que ce vaste programme répressif n'ait pas eu de ramifications et de répercussions ailleurs, eh bien elle a répondu dans toute la seconde partie de son livre. On n'aura pas le temps d'aborder en profondeur cette partie, mais un mot quand même là-dessus.
De mon point de vue, c'était impossible qu'il n'y ait pas eu des répercussions ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des traces en fait, de ce truc-là qui se soit inscrit d'une manière ou d'une autre dans le système international. Et comment est-ce que j'ai répondu à cette question, en tout cas sur quoi je suis tombée à partir de cette hypothèse? C'est qu'en fait, à partir de 2007, certains États de la Corne de l'Afrique, et notamment, en particulier le Kenya, se sont mis à répliquer, à imiter le système des restitutions dans leur propre lutte régionale contre le terrorisme. Et en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en 2007 et en 2010, on a vu dans la Corne de l'Afrique une imitation, moi j'ai appelé ça un transfert de pratiques répressives, mais voilà, c'est une imitation du programme de restitution, mais à l'échelle de la Corne de l'Afrique. Et donc, en 2007 et en 2010, c'est dans le cadre de la lutte contre le groupe Al-Shabaab, qui est un groupe terroriste somalien, qui agit dans la région de la Corne de l'Afrique. Et en fait, dans le cadre de la lutte contre Al-Shabaab, les forces de sécurité kenyanes ont en fait mis en place un programme de restitution qu'ils ont adapté à leur réalité locale et qui a été soutenu par les États-Unis, qui en 2007 en fait étaient participés aux côtés de leurs homologues kényans aux opérations de restitution, ce qui donnait un peu l'impression en fait qu'ils les ont formés un peu sur le terrain pour que eux aussi puissent être opérationnels pour mener des opérations de restitution. Et donc ces opérations ont eu lieu en 2007 et en 2010.
Le livre de Malika Danois, Enlever, détenir, torturer, est très intéressant sur ce qu'il dit de notre humanité, plus précisément de la perte d'humanité qui arrive si brusquement, si on n'y prend pas garde, si on écoute les voix haineuses qui font croire qu'en étant encore plus méchant que les méchants, ça va marcher. Eh bien non, ça ne marche pas. Avant de lire son livre, je n'imaginais pas un dispositif répressif aussi important, aussi documenté, aussi récent et aussi absurde.
Une des choses que je retiens, c'est l'idée que les pratiques ont existé, elles ont existé, c'est-à-dire dans la matière, que ça soit par l'existence de prisons, par les coopérations qui ont été effectives entre agents de renseignement, entre pays, etc. Et que donc, en fait, c'est comme si, une fois que ça avait existé, ça a pu être réactivé à un moment ou à un autre, sous des formes renouvelées. Mais en tout cas, le fait que ça ait existé, ça signifie que ça peut réexister à nouveau. Ouais.
À Guantanamo, certains militaires américains ont admis que 10% des personnes incarcérées l'ont été sur des bases erronées. Et au final, très peu d'individus ont été inculpés. La justice a été entravée. Toutes les lignes rouges qui séparent l'humanité de la barbarie ont été franchies. Le livre de Malika Danois laisse sans voix. Enfin presque, hein, parce que je ne vais pas vous laisser avec du silence, on est à la radio. Alors, allons plutôt faire un tour du côté des poils, ça nous changera.
J'ai eu un rapport compliqué avec mes cheveux au début, comme plein d'enfants et d'adolescents. On est toujours envieux des cheveux des autres, notamment les filles. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à les aimer. Aujourd'hui, je ne souhaiterais pas en avoir d'autres. Ils sont bouclés, ils sont frisés, ils sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, je les aime. Et puis, sinon, pour les autres poils des autres parties de mon corps, je ne saurais pas trop qualifier le rapport que j'ai avec eux, mais en tout cas, c'est plutôt un rapport terrible, je dirais. Parfois, ils ont des longueurs différentes, ils peuvent rester longs, courts, et puis c'est selon les activités que je fais, que je les coupe ou pas. Mais en tout cas, oui, je dirais que j'ai plutôt un rapport tranquille et paisible avec ça.
Comme le sujet du jour n'était pas très joyeux, j'ai décidé que la prochaine émission serait douce, dans un tout autre registre. Parce que dans Du poil sous les bras, mon ambition, c'est que vous ayez toujours envie d'en savoir plus, de découvrir des sujets auxquels vous n'auriez pas pensé, de vous laisser porter par la voix de quelqu'une qui a passé du temps à se documenter, à analyser, à agir pour transmettre des savoirs et des connaissances qui aident à comprendre le monde, le nôtre. Alors j'alterne les thématiques au gré du vent et de mes envies en espérant qu'elles répondent aux vôtres. A bientôt sur les ondes FM, sur internet ou ailleurs. Du poil sous les bras, eh bien c'est pour vous en tout cas.
Face à l'hiver austère, à la galère glaciaire, les oreilles qui traînent finissent en surgelé. Y'a comme un vent de nord-est qui souffle sur l'hexagone. On voit des silhouettes de bad boy Ruskov qui zone.
Chouffe le choc comme un pacha. pacha, et pacha. Avec mon nouchanka, je suis comme un pachyderme. À la Rouskov, pop pop, je me réchauffe l'épiderme. Je suis la pache au scalp d'éléphant. Le casque de poil, la peau d'ours d'Astrakhan. Quoi de mieux qu'un petit loup bolchevique, soviétique, satanique,